de Montréal jusqu'au lac Saint-Jean, c'est tous les samedis soirs à 19h à CIBL 101.5.
Pour conclure en beauté, un invité spécial se joint à nous à chaque semaine à Sainte-Catherine, Saint-Loup.
Vivre Montréal, Montréal.
Alors, ici c'est IBL. On entre en onde bientôt. Dans 5 minutes.
C'est IBL 105 au cœur de Montréal.
C'est intermittent jusqu'à Wellington. Vers la rive sud, congestion depuis Turcot. Parce qu'on a eu un accident tout à l'heure sur la 132.
Bon, mais c'est clair, tu vas être en retard.
Ouais, cool. J'ai de la gym.
Parce que la 132 demeure encore occupée.
Il est 9h.
C'est IBL. 101.5.
Bonjour à toutes et à tous, vous écoutez Les Aurores Montréal sur CIBL. Nous sommes le jeudi 18 avril et ici Charline Carreau, votre animatrice pour bien débuter la journée. Et aujourd'hui, on reçoit la responsable de la maison d'édition Éco-Société, suivie des jeunes du Centre Lassalien de Saint-Michel. Et pour finir, ce sera une chronique de la table des groupes de femmes de Montréal. Alors que vous soyez au travail, sur la route ou bien tranquillement en train de vous réveiller, bienvenue sur les ondes de CIBL. Et dans l'actualité, la mairesse Valérie Plante a appelé les citoyens à mettre la main à la pâte concernant le grand ménage de printemps de la ville. Selon elle, la propreté n'est pas seulement la responsabilité de Montréal. Cela passe notamment par le respect des heures de collecte et la propreté devant chez soi. Au dernier conseil municipal, l'administration Plante a été critiquée par l'opposition pour l'état des rues montréalaises, notamment au centre-ville. Et ensuite, le chanteur Birdy Veilleux a annoncé la sortie de son premier album intitulé « Chansons tristes pour les gens heureux ». Le multi-instrumentiste et compositeur propose dans ce projet des chansons folk francophone et organise un lancement d'album le 6 juin prochain au Quai des Brumes. On continue de notre côté avec les jeunes de Saint-Michel pour une discussion enrichissante. Le Centre Lassalien, c'est un centre socio-éducatif qui accompagne et soutient les jeunes de Saint-Michel. En décembre dernier, j'avais reçu son directeur général, Paul Evra, et aujourd'hui, je reçois les acteurs principaux de ce centre, à savoir les jeunes de Saint-Michel. Je suis donc en présence de Naama, Isaac et Claude Anderson. Bonjour à tous les trois.
Bonjour.
Avant d'aller plus loin, est-ce que vous pourriez nous présenter un peu qui vous êtes ?
Ouais. Bonjour, moi c'est Isaac, j'ai 16 ans. J'habite dans le quartier Saint-Michel. Aujourd'hui, je suis venu pour parler d'entrepreneuriat. Je suis un jeune qui est membre du CA, communautaire du centre. Et je suis là pour présenter notre projet sur lequel on a certaines difficultés.
Très bien.
Bonjour, je m'appelle Naama, j'ai 14 ans. Je fais partie du projet d'entrepreneuriat. Ça fait 5 ans que je suis au Canada et je suis atteinte d'un bégaiement.
Bonjour, moi je m'appelle Claude Anderson, j'ai 16 ans d'âge, je suis en C4 en Louis Joseph Papineau, je fais aussi partie des comités de jeunes du Centre Lassalien.
Très bien. Alors vous fréquentez tous les trois le Centre Lassalien de Saint-Michel. Est-ce que vous pourriez nous expliquer un peu ce que c'est pour ceux qui n'en ont jamais entendu parler ?
Ouais, le Centre Lassalien est un centre où ça priorise le développement intégral des jeunes. C'est un centre où les gens se sentent à leur place, se sentent chez eux, où ils sont à l'aise. C'est un endroit de confiance, c'est un endroit sécuritaire où que les jeunes peuvent venir s'épanouir.
Vous êtes d'accord avec cette présentation ?
Oui,
tout à fait. Il y a donc un ensemble d'activités culturelles, éducatives, sociales qui sont organisées, notamment en vue d'augmenter les chances de réussite scolaire, sociale. Vous, qu'est-ce que vous faites au centre ? À quelles activités vous participez ?
Moi, personnellement, je suis membre du CA, Conseil Jeunesse. Donc, je participe aux discussions et aux décisions sur les activités qui pourraient intéresser les jeunes, ce que les jeunes veulent. Quand les jeunes ont besoin de quelque chose, ils passent par nous pour demander ce qu'ils ont besoin. Puis nous, on va rencontrer la direction du Centre Lassalien et on présente le projet.
Très bien. Naama, qu'est-ce que tu fais, toi ?
Moi, je fais plus du bénévolat et je suis également dans l'entrepreneuriat. J'aide les enfants à faire leurs devoirs ou bien quand il y a des riches au bus, je compte le nombre de personnes qu'il y a et je donne à madame.
Très bien. Et toi?
Ben, moi aussi, je fais partie du CA. Puis, je suis aussi dedans le projet du entrepreneuriat. Et je suis sur le côté, j'aide les jeunes à participer, à jouer sur le basket.
Ouais. Ouais, vous faites du sport aussi, il y a de la danse, du basket aussi.
Oui, ouais. À peu près de tout.
Ouais, très bien. Et ça fait longtemps que vous y allez au centre Lassalien?
Oui.
Oui, moi, ça fait depuis 5 ans que j'y vais.
OK.
La première fois que je suis allé là-bas, on va dire, c'est quand j'étais à l'école avec mes amis, puis j'étais à peine arrivé au Canada, puis ils m'ont dit... Il y a un endroit où on a l'habitude d'y aller chaque après-midi. Est-ce que tu peux y aller avec nous? Mm-hmm. J'ai dit, OK, je vais découvrir cet endroit-là. Puis depuis que j'y suis allé, je n'ai jamais quitté le centre Lassalien parce que c'est vraiment un endroit où je me sens à ma place, mm-hmm. où je suis à l'aise, je connais tout le monde. C'est vraiment un endroit qui accueille bien les jeunes.
Mm-hmm. Toi, Nama, ça fait combien de temps?
Moi, ça fait 3 ans. Moi, je suis allée après lui parce que j'ai entendu qu'il allait là-bas, etc. Okay. Donc, moi, je voulais plus voir ce qu'il y a à essayer. Moi, j'aime beaucoup venir au centre parce que c'est un endroit assez chaleureux et accueillant où on peut être soi-même sans se sentir jugé. Mais aussi parce que ça m'apporte beaucoup de connaissances et des connaissances essentielles et non seulement de l'amusement.
Mm-hmm. Et toi, Claude Anderson, ça fait combien de temps?
Ben, moi, ça fait 4 ans. 4 mois, excusez-moi.
4 mois, ouais.
Je suis là à cause de mon ami Isaac.
C'est OK, lui donc qui c'est tous à cause de Isaac.
Ouais, c'est lui qui nous a intégrés dans le centre. Puisque c'est mon meilleur ami. Puis dans ces 4 mois-là, j'ai retrouvé que le centre, c'est vraiment un endroit de sécurité. Mm-hmm. C'est comme si c'est une deuxième famille.
Vous parlez tous de ce centre comme un endroit où vous êtes à votre place, où vous vous sentez bien. Pourquoi? Qu'est-ce qui fait que vous vous sentez bien?
Je pense que c'est l'ambiance qu'il y a là-bas.
Mm-hmm.
Comme quand je préfère mieux être là-bas que chez moi, certaines fois. Mm-hmm. Certaines fois parce que je me sens libre. Je me sens moi-même. Il y a plus d'espace pour que les jeunes soient tranquilles, sans dérangement. Si je joue au basket, je peux prendre le ballon, je peux jouer, on peut faire des discussions, etc. Ouais, c'est vraiment intéressant.
Ouais, t'es d'accord, Nehama?
Oui.
Ouais. Donc des fois, vous y allez juste pour chiller, à la place d'être chez vous, vous y allez,
oui,
et puis vous voyez du monde, etc.
Ouais.
Ok. Vous avez donc participé à des cours de danse, basket, d'entrepreneuriat, donc des choses pour vous. Mais vous l'avez dit, vous faites aussi des choses pour les autres avec du communautaire, du bénévolat. Pourquoi vous aidez aussi les autres, en plus de vous aider vous?
Ce sont des principes, parce que il faut donner à la communauté. Mm-hmm. Il faut aider les autres. Ce sont des valeurs que je possède. Hein. Mm-hmm. J'aime aider les gens, j'aime voir les gens, j'aime rendre les gens heureux. Mm-hmm. Donc, c'est pour ça que je suis là.
Toi, Claude Anderson, pourquoi tu t'engages comme ça?
Moi, je m'engage parce que moi, je sais ça veut dire quoi être un immigrant. Alors, moi, je ne serais pas là sans de l'aide. Alors, moi, je vois pourquoi pas aider les autres.
Mm-hmm. Nama aussi, tu t'impliques pour ces raisons-là?
Oui.
Ouais. Justement, les valeurs du centre, ce sont la solidarité, le respect, l'engagement. La communauté, l'importance de la communauté pour vous, c'est quelque chose qui est dans vos vies. Qu'est-ce que ça veut dire, la communauté? La communauté, c'est un mot qui revient souvent dans la présentation du centre Lassalien. Pour vous, qu'est-ce que ça veut dire?
Pour moi, c'est ethnoculturel. C'est de s'entraider, se faire confiance et de s'améliorer ensemble.
Mm-hmm. Ben, pour moi, avoir une communauté engagée et respectueux, ça l'aide beaucoup à l'avancement du quartier.
Mm-hmm.
Parce que quand t'as un comité respectueux, ça va pas empêcher les gens à s'entraider quand il y a un qui a besoin d'aide.
Mm-hmm. Justement, on en vient au quartier de Saint-Michel, dont on n'a pas encore parlé. Même chose que pour le centre Lassalien. Est-ce que vous pourriez nous en parler pour ceux qui ne le connaissent pas?
Ouais, le quartier Saint-Michel, c'est un quartier ethnoculturel qui est vraiment animé par les communautés qui y sont présentes. C'est vraiment un quartier très chaleureux.
Mm-hmm.
C'est vraiment un endroit de joie. Genre. Quand vous marchez, vous voyez, il y a à peu près plusieurs types de personnes. Genre. Il y a de la diversité, on va dire.
Mm-hmm. Ouais. Nama aussi, t'aimes ce quartier-là ?
Oui.
J'imagine que oui. Ouais. Pourquoi ?
Parce que moi, il y a beaucoup de mes amis là-bas, surtout. Et ça, c'est un quartier, il y a beaucoup de choses à faire. C'est pas vraiment un quartier problématique, etc.
Ouais. T'es d'accord aussi ?
Ouais.
Ouais. C'est parfait, bah, ça donne envie. J'ai reçu donc le directeur du centre en décembre dernier, Paul Evra, qui a dit qu'il faut permettre aux jeunes de rêver à l'impossible. Pour lui, vraiment, c'est sa motivation au quotidien. Qu'est-ce que ça veut dire pour vous de rêver à l'impossible ?
C'est de dépasser les limites qu'on se donne. Mm-hmm. Parce qu'il y a beaucoup de choses. Avant de les réaliser, on trouvait que c'était impossible. Genre. Mais quand il a dit ça, j'ai compris que c'est nous qu'on se donne des limites. Mais pourtant, il n'y a pas vraiment de limites. On peut plus dépasser les limites qu'on se donne.
Donc, et c'est quoi ces limites ?
Ben, comme par exemple, mon projet de réussir, parce que ça fait à peu près quand même 3 ans sur lequel que je travaille sur ma marque de vêtements. Et que malgré les difficultés, etc., je continue d'y croire. Mm-hmm. Je sais que je peux réussir. Car depuis qu'il y a de la motivation, on peut tout faire. Mm-hmm.
Pour vous, rêver à l'impossible, ça veut dire quoi ? Est-ce que vous le faites ?
Ouais, je le fais presque chaque jour, puisque depuis ces 4 mois-là, chaque jour, je suis au centre pour travailler à l'impossible. Mais rêver à l'impossible, pour moi, ce n'est pas seulement dépasser les limites. C'est aussi de genre, dire de qu'est-ce qu'on pourrait faire. Genre, par exemple, j'ai un examen, je ne pourrais pas passer. Je dis, OK, si lui, il a passé, moi aussi, je peux le passer. Mm-hmm. Alors, pour moi, c'est vraiment ce qu'Isaac a dit, c'est nous qui se mettons des limites.
Même chose, Nahama. Oui. T'es d'accord avec ça ?
Ouais. Oui, oui.
Justement, en parlant de rêver à l'impossible, vous menez déjà des vies presque impossibles de jeunes entrepreneurs, entrepreneuses. Est-ce que vous pourriez nous parler, chacun, de vos projets, de ce projet que vous menez ? Isaac, t'as commencé à parler de ta marque de vêtements. Qu'est-ce que c'est ?
Oui. On peut dire 2021. Il y avait une activité de jeunes entrepreneurs qui avait débuté au centre. Puis moi et mon ami et mon partenaire Alex, on a décidé de s'y inscrire. Puis dans l'activité, il fallait créer quelque chose. Comme par exemple, au début, on n'avait pas d'idée, moi et mon partenaire. Alors on y réfléchissait et on se disait, qu'est-ce qu'on a en commun ? Qu'est-ce qu'on aime en commun ? Puis là, j'ai remarqué que c'était la mode. On aime les beaux designs, on aime de beaux vêtements. Alors, on a décidé d'en créer un. Au début, ça paraissait compliqué parce que je n'avais pas, comment dire, d'habitude d'y investir du temps dans des projets comme celle-ci. Mais à la fin, j'ai fait des recherches, j'ai pris des conseils de personnes qui ont participé à des rencontres quand j'y étais. Ils m'ont donné des conseils et j'ai pu avancer sur mon projet.
Mmh. Très bien. Et ta marque de vêtements, c'est chic, mais abordable, c'est ça ? C'est comme ça que je
l'ai
vu ?
Ça.
Ouais, ça reflète bien l'idée.
Il faut que les personnes de mon quartier puissent y avoir accès sans dépenser beaucoup trop d'argent.
Okay.
Parce que les vêtements, maintenant, c'est vraiment devenu beaucoup trop cher. Alors, on veut leur donner accès à un vêtement de bonne qualité, mais de basse prix.
Donc on en revient encore à la communauté et à l'entraide, parce que
ouais,
ta marque, elle est destinée aux gens de ton quartier.
Oui, quand même.
Très bien. Nama, toi, c'est les bougies anti-stress, c'est ça ?
Oui.
Est-ce que tu peux nous en dire plus ?
J'ai décidé de faire ce projet, non seulement parce que je veux aider, venir en aide aux personnes qui sont stressées ou anxieuses, mais aussi parce que je veux montrer aux jeunes qui ont un trouble de parole comme moi, que le fait qu'on soit différent des autres ne nous empêche pas de faire ce qu'on aime et que si moi j'arrive à parler de mon projet en radio, en direct, eux aussi ils peuvent et qu'à abandonner n'est jamais la solution. Et que notre troupe de parole, c'est notre force et c'est ce qui fait de nous ce qu'on est aujourd'hui.
Très bien. Bah, t'as un beau message déjà derrière ton projet. Oui. Comment ça se concrétise ? C'est quoi les bougies anti-stress exactement ?
Les bougies anti-stress, en fait, je dirais plus qu'on fait des bougies et on met une sorte d'huile essentielle. Et dans cette huile essentielle-là, ça permet de diminuer le stress.
Mm-hmm. Ça marche pour toi ?
Oui, pour moi.
Et t'as déjà des retours ?
Je me souviens que la première fois, je l'avais fait, mais c'était juste pour tester. Je ne l'avais pas vendu ou quoi. C'était juste pour faire une petite expérience.
Très bien. Ben, tu nous diras si jamais un jour tu lances ton site de bougies, on sera là. Toi, Claude Anderson, c'est le e-commerce, c'est ça ?
Ouais.
C'est quoi ton projet exactement ?
Ben, y a beaucoup de branches dans l'e-commerce, mais moi, j'ai décidé de prendre ce qu'on appelle le dropshipping. Le dropshipping, c'est un produit... Ben, pas un produit, nécessité, plusieurs produits. Puisque avec ce type de e-commerce-là, il n'y a pas de limite, puisqu'il y a beaucoup de produits qu'on pourrait vendre. Alors, j'aimerais aider la communauté, surtout avec cette inflation qui arrive, d'avoir des produits qu'on pourrait avoir à bas prix.
Donc, tu fais le lien entre le fournisseur et le client, c'est ça ?
Oui.
Très bien. Et quel genre de produit tu aimerais vendre ou tu vends déjà ?
Ben... j'aimerais vendre surtout des trucs genre électroniques, mais ça aussi dépend de l'environnement et ma communauté, parce que je fais ça plus pour la communauté plus que moi.
Très bien. Tous les trois, c'est vraiment un projet en lien avec la communauté. C'est important pour vous de revenir aux gens qui vous entourent et de les aider avec votre projet. Vous avez entre 14 et 16 ans, on l'a dit tout à l'heure. Est-ce que ce jeune âge peut parfois vous limiter ? On parlait de limite tout à l'heure. Peut vous limiter dans ces projets-là, dans le développement que vous avez ?
Oui, car à cause de notre jeune âge, les jeunes ne nous font pas confiance. Les jeunes d'aujourd'hui, ils ont très peu de possibilités d'exprimer leur talent. Parce que au lieu que les jeunes fassent du n'importe quoi et s'investissent dans de mauvaises choses, s'ils avaient un endroit où s'investir, où développer leur talent, explorer leur talent, etc., je pense qu'ils ne seront pas dans certaines choses. Alors, il faut donner aux jeunes la possibilité d'exprimer leur talent et surtout d'y croire en eux. Bon, car s'ils ont des présences positives aux alentours d'eux, ben, ils vont pouvoir mieux exceller. Oui, c'est important.
Et justement, j'en profite qu'on soit écouté par quelques personnes. Quel message vous aimeriez passer aux jeunes qui nous écoutent ?
De ne pas abandonner. C'est vrai que c'est difficile aujourd'hui de vraiment commencer un projet et d'y vraiment y aboutir avec. Mais il faut garder espoir, il faut travailler dur. Et surtout, je veux passer un message pour dire que s'il y a des gens qui ont de l'expérience dans les vêtements, etc., ou même dans les bougies ou dans le dropshipping, ces personnes-là peuvent passer au centre, nous donner des conseils, venir nous voir, nous donner un stage s'ils ont une marque pour qu'on puisse avoir de l'expérience là-dedans. Voilà.
Très bien. Bah, appel aux stages et aux expériences pour les jeunes de Saint-Michel et du centre Lassalien. Nahama, qu'est-ce que tu aimerais dire aux jeunes qui nous écoutent ?
Moi, j'irais plus de ne pas se sous-estimer. Parce que des fois, on peut avoir des beaux projets, mais se dire que peut-être que les gens ne vont pas aimer ou peut-être que finalement, c'est nul. Mais au fond, je trouve que si on investit un peu plus dans ce projet-là, peut-être qu'à la fin, cela donnera un beau résultat.
Très bien. Et toi, Claude Anderson ?
Ben, moi, le message que je voudrais passer, c'est si on croit en nous, rien n'est impossible. Parce que des fois, on se donne des limites que peut-être à la fin, on serait là. Par exemple, moi, je suis là, ben, moi, je ne me croyais pas du tout, mais j'ai eu la persévérance, je me suis avancé et je suis radieux maintenant.
Très bien. Merci pour ces beaux messages. Le mot de la fin, c'est pour Marie Benoît, l'intervenante qui nous accompagne. Pourquoi c'est important pour vous que ces jeunes-là témoignent au micro de CIBL dans une radio montréalaise ?
Merci pour la question, parce que j'aimerais vraiment en profiter et le dire publiquement, parce que je le dis souvent avec eux, mais là, c'est vraiment public. Je salue leur engagement. Tu sais, c'est des jeunes qui persévèrent puis qui rêvent grand. Et aux côtés de notre directeur qui est M. Paul Évrard, tout est permis. Ils l'ont mentionné, puis je le martèle. Il y a assez d'espace pour s'épanouir. Il y a assez d'espace pour rêver grand. les trois l'ont compris. En fait, ce sont les trois qui sont présents aujourd'hui, mais j'en ai d'autres, vu que l'espace était limité, les micros et tout. Mais je pense que le monde qui nous écoute aujourd'hui, les personnes qui nous écoutent aujourd'hui, mon appel à eux, c'est vraiment de croire au talent des jeunes d'aujourd'hui. Les jeunes ont des talents, les jeunes veulent avancer. La seule chose qu'ils ont besoin et qui manque souvent, c'est des personnes comme moi, des personnes qui croient et qui donnent du temps d'accompagner et de croire.
Le message est passé. Merci beaucoup à tous les quatre d'être venus nous parler de vos philosophies, de vos projets. Je rappelle que c'est le Centre Lassalien, centrelassalien.org, je pense, pour le site internet, pour tous ceux qui veulent des infos ou vous proposer un stage, on ne sait jamais. Merci beaucoup à tous les trois, à tous les quatre, et puis bonne continuation dans vos projets.
Merci,
merci beaucoup. Merci.
On continue sur CIBL avec l'éco-société, la maison d'édition montréalaise.
CIBL 101.5 Montréal.
Vous cherchez une activité originale, ludique et rassembleuse? Venez jouer avec nous au Bingo Radio de CIBL tous les dimanches de 13h à 15h sur les ondes du 101.5 FM. À gagner 3 500 $ en prix. Pour participer, procurez-vous un livret de cartes de bingo pour moins de 10 $ dans un point de vente près de chez vous. Consultez la liste sur notre site web au cibl1015.com sous l'onglet Bingo Radio de CIBL. C'est un rendez-vous les dimanches de 13h à 15h sur les ondes du 101.5 FM. Invitez vos amis. Bonne chance!
Il y a du nouveau à CIBL. Nous sommes fiers de vous présenter notre palmarès indépendant, les 30 Glorieuses. Tous les vendredis de 16h30 à 18h, moi-même, Caroline, j'ai le plaisir de vous présenter les 30 chansons les plus en demande de la semaine. Vous ne pouvez pas vous joindre en direct? Pas de souci, rendez-vous au cibl1015.com et retrouvez toute la sélection hebdomadaire sur notre site Internet. Nous sommes également en rediffusion les samedis à 7h30. C'est un rendez-vous!
Les générations se parlent à Trait d'Union. Je suis Louise Curodeau et je vous invite à vous joindre à nous tous les vendredis à 14h sur les ondes de CIBL 101,5.
CIBL.
Je reçois à présent Élodie Comtois, responsable du commercial aux éditions Éco-Société. Bonjour Élodie.
Bonjour.
Éco-Société, c'est donc une maison d'édition indépendante, mais pas n'importe laquelle, il se trouve. Comment vous décririez votre ligne éditoriale?
Alors, notre ligne éditoriale, elle est traversée par une forte volonté de changer les choses, je dirais. On a changé notre slogan pour nos 25 ans en articulant cette ligne autour de deux pôles, cultiver les savoirs et ouvrir les possibles. Quand la maison d'édition a été créée en 1992 par un groupe de militants et militantes, à l'époque, le slogan était « à contre-courant ». Et puis, au moment de nos 25 ans, on s'est dit « on vient des marges, on est à contre-courant, mais cette volonté de parler d'écologie sociale, de parler de la nécessité de comprendre la destruction environnementale en cours, la destruction écologique, il ne faut plus qu'elle reste dans les marges, justement. Mmh. Alors, bien sûr que notre littérature continue à amener des idées qui sont encore à contre-courant, mais celles qu'on amenait il y a 30 ans, elles ne le sont plus vraiment, et heureusement, il faut qu'elles prennent beaucoup plus de place et qu'elles s'assument. Donc, ce petit détour pour vous dire que la ligne éditoriale d'Éco-Société, ça va s'intéresser avant tout à l'écologie sociale dans la lignée de la pensée de Murray Bookchin, qui est un penseur du Vermont, à qui on doit toute la pensée du municipalisme libertaire, mais qui a une approche qui, en gros, nous dit si nous vivons une domination de l'humain sur la nature, c'est aussi, avant tout parce qu'il y a encore une domination entre les humains et il faut travailler à l'égalité entre toutes et tous. Et donc, c'est cet esprit-là d'écologie sociale qui traverse vraiment la ligne éditoriale d'Éco-Société. Après, on va aborder autant les enjeux de rapport Nord-Sud. On va évidemment beaucoup aborder la question du capitalisme et le décortiquer, le comprendre, en quoi est-ce qu'il est mortifère pour le vivant. Et puis, on va aussi parler de démocratie participative. C'est ça. On a un catalogue très large qui qui vient croiser un certain nombre de thématiques. Voilà.
Oui, votre mandat, en effet, c'est d'informer le public sur les grands enjeux écologiques, mais aussi en lien avec les questions sociales, politiques, culturelles. Concrètement, vous parlez de santé, par exemple, de démocratie, de capitalisme, de technologie. Donc, le thème de l'écologie englobe, en fait, tout un ensemble de sujets auxquels on ne pense pas forcément quand on parle d'écologie.
Tout à fait. Si je prends la dernière rentrée, on a un livre d'Anne Plourde sur le privé en santé, Santé Inc., donc sur les mythes et les faillites du privé en santé. On a aussi cet automne sorti un livre sur la voiture électrique, La ruée vers la voiture électrique de Laurent Castagnède, qui est une critique en fait de la ruée vers cette voiture électrique qui amène à la fois des soucis, des enjeux extractivistes, parce que qui dit voiture électrique dit métaux rares, mais aussi des enjeux d'organisation urbaine, parce que c'est un modèle de moto solo qu'on nous propose, et c'est encore une fois un cul-de-sac dans lequel on s'embourbe sans développer véritablement une solution de transport en commun collectif, gratuit, accessible et véritablement efficace. Ça ne nous empêche pas aussi de parler, c'est ça, d'enjeux sociaux plus profonds, que je pense à Louise Henry, Délivrez-nous de la prison Leclerc, qui est sur les femmes en prison, ou encore plus anciennement des titres comme « Coué, je te salue », qui était sur une conversation sur le racisme entre Natacha Canapé-Fontaine et Denis Béchard, donc sur les questions autochtones. Et puis, tout notre volet pratique. Ça, il ne faut pas le négliger, parce que c'est vrai que ça fait partie de notre identité. Il y a vraiment une volonté chez Éco-Société, je dirais, de passer de la pensée à l'action. Puis c'est pas, c'est véritablement ça qu'on essaye de faire. C'est-à-dire qu'on a autant des livres très, des plaidoyers, des pamphlets qui vont dénoncer des situations, et autant on a 12 ouvrages où on veut aussi que les gens puissent retrouver prise sur leur point de vue, leur vie quotidienne. Et en ce sens-là, toute la question de l'agriculture et de l'agriculture chez soi, du jardinage, de la réappropriation de son espace, de la nature, c'est aussi très central dans notre catalogue.
On voit un ensemble de problématiques liées à l'écologie. Tous ces sujets, ils ne sont pas réjouissants, sinon on n'écrirait pas dessus. Est-ce que vous cherchez à trouver un équilibre entre le négatif, le positif, entre la dénonciation de situations et la recherche d'alternatives?
Je vais citer Serge Mongeau, un des fondateurs de la maison d'édition, qui a publié beaucoup d'ouvrages chez nous, mais qui était éditeur également. Il disait souvent en comité éditorial, on ne veut pas que les gens ressortent découragés par nos ouvrages. Alors, peut-être qu'il y en a qui ont encore cet effet-là, mais on essaye quand même le plus possible dans le travail éditorial avec les auteurs et les autrices d'amener... Le mot solution n'est peut-être pas la bonne voie, disons, oui, des solutions, mais c'est-à-dire qu'il n'y ait pas un découragement. Je prends un livre qu'on a publié dernièrement, c'est pour une écologie du 99%, qui était vraiment sur ces 20 mythes pour déconstruire le capitalisme, puis montrer les fausses bonnes idées en environnement, en écologie, que ce soit les technologies vertes ou seulement la surconsommation, dont il faut parler de surproduction, etc. Mais tout l'ouvrage, il y a toute une partie de critique. Puis ensuite, comment on s'organise, comment on convainc les autres, comment on parle à son voisin, à sa belle-sœur, à sa nièce, à son collègue de travail, pour adresser tous ces enjeux politiques et essayer de changer les choses. Et c'est sûr que c'est au cœur de notre catalogue, c'est lire, réfléchir, agir. Pour passer à l'action, il faut qu'il y ait un ressort, il faut qu'il y ait un ressort intérieur où on se dit, j'ai saisi les enjeux. Maintenant, je vais me greffer à une communauté, à une association, à une association étudiante, à un syndicat. Et on va dans l'action.
Justement, vous parlez de toutes ces personnes auxquelles vous pouvez vous adresser. Vous dites viser un ensemble de publics, une grande variété de personnes. Qui sont-ils?
Alors oui, c'est très large. On va avoir autant des étudiants, des étudiantes, beaucoup quand même, parce que nos livres sont aussi mis au cours par des profs. On a du grand public. Si je prends le cas du jardinier maraîcher, qui est un manuel d'agriculture biologique sur petite surface, ce livre-là a été utilisé par des gens de tous horizons, en ville, à la campagne, vraiment. Quand on est en salon du livre, c'est un bon lieu pour avoir une idée. C'est de tous les âges, vraiment. Et puis, je pense qu'on a aussi, j'espère, toucher en effet des lieux plus voilà, de syndicats, de gens impliqués dans leur syndicat, mais aussi de gens, des professionnels dans leur milieu de travail. Et puis dernièrement, on a lancé cette collection Radar qui s'adresse plus précisément aux adolescents. Donc là,
est-ce que c'est la maison d'édition Isatis que vous avez rachetée ? Ça, c'est une autre chose encore ?
Oui, c'est d'autres choses, ça. Donc, ça fait très longtemps qu'à Éco-Société, on réfléchissait à faire du jeunesse parce que les parents dans les salons du livre nous le demandent. Ils achètent les ouvrages sur des questions écologiques. Ils disent, mais moi, je veux en parler à mes enfants. Et je trouve pas d'ouvrages qui le font assez bien. Quand est-ce que vous allez faire des livres pour les jeunes ? Et puis, il y a quand même une grande richesse en littérature jeunesse au Québec. Les éditeurs jeunesse sont très dynamiques. On se voyait mal aller dans leur tal et puis partir de zéro. Mais par contre, en analysant, on a réalisé qu'il y avait un véritable vide éditorial au niveau des adolescents. Il y a des romans pour les jeunes à partir de 13-14 ans. Mais en essai, on passe du documentaire pour enfants à l'essai pour adultes. Il n'y a pas d'entre-deux. Alors qu'ils sont au cœur de la destruction écologique et de l'éco-anxiété qui les traverse.
On ne pense pas forcément à offrir un essai politique à son adolescent, mais c'est possible et c'est pertinent.
Et oui, parce que l'adolescence, c'est quand même le moment de la colère politique. C'est le moment où on se dit, mais on réalise les injustices, elles nous révoltent, on se demande qu'on fait les générations d'avant. Enfin, c'est le moment de l'éveil quand même. Et donc, on s'est dit, ben, on savait que c'était quand même un petit peu casse-cou parce qu'il n'y avait rien et que c'est un public pas évident. Et c'est aussi un moment où on est en réaction avec les adultes. Donc, bon, si les adultes nous proposent quelque chose, les parents, on va plutôt les rejeter. Mais on est allé au-delà de ces clichés-là sur les ados, justement, pour leur proposer vraiment des contenus avec des sujets politiques, que ce soit, bon, on a commencé avec l'amitié, mais que ce soit les GAFAM, hein, qui sont au cœur de leur vie, donc Google, Amazon, Facebook, Apple et Microsoft, que ce soit la question de l'éco-anxiété qui les occupe, évidemment, qui les traverse et qui nous traverse toutes et tous. C'est normal, en fait, ça serait bizarre que ça ne soit pas le cas. Ou que ce soit encore la question des médias sociaux, de la cause animale. Prochainement, ça sera sur la sexualité positive. Donc, voilà, on a voulu vraiment aller vers eux et elles pour poser des enjeux politiques avec eux.
Il y a un potentiel dans ce public de lecture de livres, parce qu'on parle beaucoup de chute de l'attention, de la consommation pour les jeunes, mais aussi pour tout le monde, des médias sociaux. Est-ce que le livre peut encore peser chez les adolescents et peut rencontrer du succès ?
Oui, il est encore là. Et puis, le lectorat est là pour nous le dire. C'est sûr que ça ne va pas se ruer tout de suite dans les bancards. Puis les ados ne vont pas forcément en librairie directement. Ça va passer par les parents, par les profs. Mais si on ne le fait pas et qu'on baisse les bras et qu'on se dit, de toute façon, ils sont tous sur leurs écrans, bah, on fait une boutique et on arrête notre métier. Donc, on y croit vraiment. Et puis, je pense qu'il et elle le méritent. Qu'on leur offre une littérature à la hauteur de la situation, qui leur permettent d'assouvir leur curiosité. Et on fait très attention, justement, de ne pas avoir un discours défaitiste à l'égard de ce public-là. En disant, ben oui, ils sont beaucoup sur leur téléphone, oui, mais si on leur propose autre chose, peut-être qu'ils vont être au rendez-vous.
Un peu comme vos livres qui prônent les solutions en même temps que la dénonciation.
Exact, c'est pareil pour les adultes. Je veux dire, le public est au rendez-vous, il est curieux sur des sujets très variés et c'est peut-être aussi un signal vis-à-vis de nos médias qui sont de plus en plus menacés. On a moins en moins le temps d'avoir des analyses profondes dans les médias et c'est ce que fait le livre, c'est ce que fait l'essai politique. Il offre un temps d'arrêt où on réfléchit à un enjeu.
Est-ce qu'un livre peut changer le monde comme vous le demandez sur votre site internet ?
Le livre peut nourrir les révoltes, ça je le pense profondément, et il peut nourrir l'éveil d'une conscience politique. Je le crois fermement. Après, c'est une bougie d'allumage. Et puis après, il faut s'organiser et un mouvement social, c'est une panoplie de choses. Donc oui, le livre peut être le départ d'un mouvement, je le pense profondément. Oui.
Et maintenant que vous existez depuis 1992, est-ce que vous avez observé cet impact que peuvent avoir les livres, vos livres, sur le débat public et puis plus largement sur la société ?
Je pense qu'on ne parle plus de la même façon, par exemple, des paradis fiscaux, depuis qu'Alain Deneau a fait tout le travail qu'il a réalisé sur la question. On ne parle plus seulement de quelque chose de « oh, on ne peut vraiment rien faire ». On a compris que c'était des choix politiques de nos gouvernements de ne pas aller chercher l'argent où il est. C'est un premier exemple. Si je reprends encore cet auteur, on ne parle plus du tout de la question minière canadienne de la même façon depuis l'affaire Noir Canada. C'est une affaire, donc, le livre Noir Canada, pillage, corruption et criminalité en Afrique d'Alain Deneau, William Saché et Delphine Abadi, qui dénonçait le rôle des compagnies minières canadiennes en Afrique. Et puis, si on parle aussi d'agriculture, je reprends le livre Le jardinier maraîcher de Jean-Martin Fortier. Je pense qu'il a fait un bout de chemin pour qu'on reconnaisse, pas seulement lui, mais qu'on reconnaisse la place de l'agriculture biologique, puis et surtout l'aspect extrêmement inquiétant de l'agriculture industrielle pour nos sols, pour l'eau et pour notre santé même. Donc oui, nos livres font du chemin aussi complètement. On peut aussi penser à La simplicité volontaire de Serge Mongeau, plus anciennement, qui avait fait qui a eu un énorme impact dans la vie de beaucoup de gens. Je connais des gens qui ont pris leur retraite après avoir lu cet ouvrage parce qu'ils ont changé complètement leur mode de vie.
Donc l'impact est là.
Oui.
Et ça tombe bien que vous êtes là, parce que je vais vous demander de nous présenter un ou deux livres récemment parus aux éditions Éco-Société, par lesquels vous aimeriez commencer.
Alors, j'ai décidé d'y aller dans des titres peut-être que les gens ont pas vu, peut-être qu'ils ne les ont pas vus passer. Je voudrais commencer par Migration de Sonia Cha, Grandeur et misère de la vie en mouvement. Sonia Cha, c'est une journaliste américaine. Elle est aussi elle est journaliste scientifique, reporter. On l'a connue d'abord pour son premier essai qu'on a traduit, qui s'appelait Pandémie, qu'elle avait publié en 2016, donc avant la fameuse pandémie.
Visionnaire.
Mais qui reprenait un peu le fil rouge du choléra pour nous rappeler comment une pandémie arrive dans une société et qu'est-ce qu'elle révèle en fait sur cette société. Et puis son titre, le titre suivant, parce qu'on l'a pas lâché, Sonia Cha, on a tellement aimé son œuvre, c'est ce titre Migration qui en fait vient nous expliquer que la migration au niveau de la faune est déjà en cours en adaptation au changement climatique. Les espèces ont déjà commencé à migrer parce que la température a changé et qu'ils doivent se déplacer. Et elle va faire le parallèle avec les migrations humaines en cours qui sont des adaptations aussi au changement climatique et aux situations de guerre et de pression économique. Et qu'il faut non pas fermer les frontières comme les majorités des pays occidentaux le font, mais il faut tout simplement gérer cette migration, la comprendre, l'accueillir, parce que de tout temps, elle a existé et il faut l'accepter. Et elle est allée sur le terrain, elle est allée auprès des migrants en Europe, mais elle va aussi dans l'histoire nous raconter comment est-ce que dans la biologie aussi, ça a été long avant de comprendre que la faune était en mouvement. J'ai plus beaucoup de temps, il faut que je m'arrête. Oui.
En effet, je vois que le deuxième livre a l'air très intéressant. Donc ça, c'est Migration de Sonia Cha aux éditions Éco-Société. On retient. Très bien, et pour le deuxième.
Et puis, comme je venais au cœur de Montréal, CIBL, ça me rappelait beaucoup la grève étudiante de 2012 et je me suis dit que c'était important de parler de Motifs raisonnables de Clément Goljac. 10 ans d'affiche politique. Clément Goljac, c'est à la fois un artiste et un essayiste. Ici, il livre en fait 10 ans de son regard depuis la grève de 2012 où il avait fait plein d'affiches qui ont jalonné tout ce printemps, que l'on se rappelle le poivre, c'est pour le steak, ou difficile d'expliquer la classe à ceux qui n'en ont pas. Rappelez-vous toutes ces affiches de Clément Goljac. Et puis, il a continué, après cette grève, à commenter la vie politique, que ce soit le règne de Harper ou bien toutes les scandales politiques autour de l'environnement. Et il a toujours un regard un peu décalé et mordant. Et puis, ce livre, donc, est un recueil de ses affiches, mais aussi un essai sur son propre regard qui a évolué sur l'actualité, qui commente l'actualité. C'est un bijou. C'est un objet aussi.
Oui, en effet. Oui, oui, bien sûr, parce que donc il est jalonné de toutes ces affiches.
De toutes ces affiches, voilà.
Très bien. Donc ça, c'est Motif raisonnable de Clément de Goljac, aux éditions Éco-Société aussi. Merci beaucoup, Élodie, d'être venue nous parler de cette maison d'édition, de vos ouvrages. Écosociété.org, c'est votre site internet pour retrouver toutes vos ressources. Merci beaucoup et puis bonne continuation.
Merci de l'invitation.
On continue sur CIBL avec la chronique de la table des groupes de femmes de Montréal.
Ça faisait longtemps qu'on avait, toi et moi, envie de trouver des mots d'amour quelque part à notre retour, envie d'écrire un peu tous les jours ces quelques mots d'amour. Ça faisait longtemps qu'on avait, toi et moi, envie de partir pour un grand tour, quelque part sans retour, envie de fouiller les alentours pour découvrir notre amour. Toujours envie dans 20 ans de se regarder toujours aussi bêtement. Si tu veux bien, moi je prends rendez-vous maintenant. Je sens que tu me laisses me projeter dans le temps. Est-ce qu'on aura toujours envie dans 20 ans de se regarder toujours aussi bêtement? Si tu veux bien, moi je prends rendez-vous maintenant. Tu te projettes avec moi également. Ça faisait longtemps que t'avais au fond de toi l'impression d'être un peu esselé, comme une fleur mal arrosée, l'impression de ne pas récolter l'amour que tu donnais. Ça faisait longtemps que j'avais au fond de moi perdu l'espoir de pouvoir profiter d'un regard qui dit je t'aime, d'entendre au réveil comme au coucher une voix me dire je t'aime. Est-ce qu'on aura toujours envie dans 20 ans regarder toujours aussi bêtement? Si tu veux bien, moi je prends rendez-vous maintenant. Je sens que tu me laisses me projeter dans le temps. Est-ce qu'on aura toujours envie dans 20 ans de faire l'amour? Ah oui, l'amour si souvent. Si tu veux bien, moi je prends rendez-vous maintenant. Je sens que tu te projettes avec moi également. Passons notre tour aux histoires brèves, faisons l'amour sur du 15 pouces.
Vous écoutiez Dans 20 ans de Matteo Hanekin et c'est l'heure de la table des groupes de femmes de Montréal et de leur chronique. Et aujourd'hui, nous sommes avec Nathalie Laëli, intervenante et chargée de soutien à l'organisme anonyme. Bonjour Nathalie.
Bonjour Charline, merci de me recevoir.
Et ben avec grand plaisir. Est-ce que vous pourriez commencer par nous expliquer ce qu'est votre organisme anonyme?
Alors tout à fait, l'anonyme, premièrement, c'est un organisme à but non lucratif donc, qui a été créé en 1989. Donc voilà pour ça. Donc on offre des actions de proximité. Concrètement, et on vise à répondre de manière ciblée justement aux réalités liées à la sécurité urbaine, à la consommation des substances psychoactives, à la santé sexuelle et à la précarité du logement. Donc voilà pour ça. Et notre approche n'est pas particulière, mais on veut tout simplement avoir une approche humaniste. On vise à utiliser l'écoute active et on utilise la proximité et on respecte le rythme personnel des différents usagers, usagères de nos services.
Très voilà. Bien. Eh ben, c'est une belle mission. Merci pour la présentation. Et vous, qui êtes-vous? Que faites-vous dans cet organisme?
Alors moi, Nathalie Laïli, j'interviens maintenant à la fois en tant qu'intervenante et chargée de projet, soutien au volet animation du programme de sécurité urbaine. C'est-à-dire que concrètement, je vais dans les écoles, dans différents organismes, dans des CPE, dans des garderies, où je propose justement des ateliers que nous avons mis en place en équipe. Et donc, nous abordons différents thèmes comme la gestion des conflits, la cohabitation, la gestion des émotions, l'intimidation. En tout cas, notre mission est vaste en sécurité urbaine.
Et justement, il y a 4 volets dans lesquels intervient l'organisme, et vous intervenez dans un volet en particulier.
Exactement. Alors, il y a donc 4 volets. Il y a le programme éducation à la sexualité, où il y a uniquement des personnes qui ont fait des études, qui sont diplômées en sexologie. Ensuite, nous avons le programme logement, où nous avons 14 logements, justement, que nous proposons à des usagers usagères qui vivent une grande vulnérabilité. Donc, voilà. Ensuite, il y a le programme d'intervention à la proximité, qu'on peut voir concrètement dans les rues de Montréal, et notamment dans le quartier Mercier chez Laga Maisonneuve, mais aussi le Grand Montréal, où on a un autobus et on a aussi un site d'intervention supervisé. Et enfin, le programme de sécurité urbaine, on en fait pas mal de choses. Donc, nous, on travaille à sensibiliser, outiller, mobiliser les citoyens de tous âges afin qu'ils se sentent en sécurité dans leur environnement et dans leur collectivité.
Très bien.
Voilà globalement ce qu'on fait.
Eh bien, je me permets d'entrer encore plus dans le vif du sujet. Qu'est-ce que vous entendez par cohabitation, qui est un mot-clé de ce volet sécurité urbaine?
Exactement. C'est un mot-clé aussi qui se définit concrètement, parce que je vous ai parlé d'intervention. Oui, j'en fais moi en animation, mais j'ai aussi des collègues qui interviennent sur le terrain concrètement, qui vont voir les usagers, usagères sur le terrain, que ce soit dans les rues, que ce soit dans les habitations, en tout cas dans tout l'espace public. Et donc, nous, on entend par cohabitation la coexistence entre différentes populations qui occupent et partagent l'espace public, c'est-à-dire nous tous, en fait. Donc, voilà.
Et c'est un choix que vous avez fait pour ce volet, la thématique de cohabitation et de prévention en milieu scolaire. Pourquoi ce choix-là en termes d'intervention?
Alors justement, parce qu'on s'est rendu compte, vu l'actualité, on ne va pas se mentir, c'est quelque chose qui est nommé par les citoyens et citoyennes. On estime que la cohabitation fait partie justement de nos préoccupations actuelles et du monde terrain, c'est-à-dire de nous, les intervenants, mais aussi il y a un grand impact sur la parentalité et leur sentiment de sécurité. Un parent veut que son enfant soit sécurisé. Un parent est comme un peu un lion, une lionne, donc veut s'assurer que le territoire soit sécuritaire, mais en même temps, on veut les aider justement à rester objectifs là-dedans, parce que oui, on comprend ce besoin, mais aussi il faut s'entendre qu'on n'est pas les seuls sur le territoire. Donc ça, c'est une chose. Et ensuite, on a constaté que la demande est de plus en plus grande et le sentiment de sécurité des plus jeunes et des plus vulnérables est de plus en plus mis de l'avant. Donc ça aussi, c'est quelque chose que nous tâchons de défendre. Et enfin, je dirais au nom de l'organisme que vraiment la cohabitation pour nous avec les jeunes enfants, c'est dans le but simplement de les sensibiliser aux réalités auxquelles ils pourraient être exposés. Je dis bien qu'ils pourraient et être confrontés. Parce que nous pensons que c'est une façon pour nous de diminuer le sentiment d'insécurité qui est en ce moment de plus en plus nommé, qui est relaté dans les médias. Donc, nous faisons du mieux que nous pouvons par ce qui nous est donné comme mandat pour contribuer à cela.
Et concrètement, à quoi est dû ce sentiment d'insécurité? De quoi on parle concernant ces jeunes?
On parle notamment... ça peut être, je dirais, c'est multifactoriel. Il est vrai que les gens vivent rapidement un peu toutes les personnes que l'on constate qui, malheureusement, des fois, sont aux prises de situations qu'ils vivent. Et cette vulnérabilité peut venir de différents facteurs. Ça peut être la perte d'un logement, ça peut être la perte d'un travail, ça peut être aussi des nouvelles addictions du fait de vouloir compenser des fois des problématiques qui sont lourdes. Et donc, ces personnes et aussi, je dirais même, l'aménagement de notre ville peut entraîner une certaine insécurité. Donc, on essaie de voir comment on peut diminuer ce sentiment en justement en prévenant les personnes, en disant oui, il y a effectivement des personnes désorganisées. Oui. Oui, il y a des problématiques de santé mentale. Oui, il y a des personnes en situation d'itinérance. Oui, mais toutes ces personnes-là ont autant le droit que moi d'être sur le territoire et d'en profiter. Ça reste un espace public. Mais, bien entendu, on va trouver des moyens, des outils pour quand même que monsieur et madame tout le monde puissent se sentir aussi bien à l'aise que ces personnes. Tout le monde a droit au territoire. Et aussi, ben, on est bien sûr aidé, nous sommes subventionnés dans notre mission, bien entendu. Donc, c'est trouver le bon équilibre, ce qui n'est pas toujours évident.
Très bien. Et justement, vous intervenez donc en milieu préscolaire. Qu'est-ce que vous faites ?
Alors, en milieu préscolaire, donc, nous avons convenu en équipe d'aller justement, comme je le disais tantôt, de sensibiliser justement les plus jeunes par le biais d'un atelier. Donc, c'est la façon la plus, je dirais, pratico-pratique et pragmatique avec les jeunes enfants d'y aller avec... Premièrement, je dirais en utilisant une marionnette, c'est ce que je fais dans le cadre de l'atelier « À petits pas vers la cohabitation sociale ». Cette marionnette est un raton laveur. C'est un peu représentatif un peu de Montréal avec un peu des fois ben, tout ce qu'on aime, tout ce mélange un peu fou. Donc cette marionnette qui est un raton laveur intervient, fait aussi un rappel de d'autres marionnettes que nous utilisons dans d'autres ateliers. Donc on peut faire un lien là-dedans. Cette marionnette, elle observe une situation que les enfants commente. Et donc, on a utilisé également un album de littérature jeunesse qui s'appelle « L'homme sans chaussettes ». Donc, on vise vraiment les personnes marginalisées, les personnes qui n'ont pas de maison. Mm-hmm. Donc, de par le biais de raconter cette histoire et le raton laveur qui intervient dans cette ville, exprime justement ce que les enfants constatent et aimeraient faire pour aider cet homme qu'ils ne connaissent pas, mais qui les inquiète, qui les surprend, qui les questionne par moment, et les enfants vont aller chercher justement l'adulte, comme on demande aux enfants toujours de se référer à un adulte responsable de sa sécurité pour pouvoir l'aider justement à pouvoir, rentrer en contact avec cette personne, parce que c'est une personne comme les autres, mais il y a une façon de faire et l'enfant doit toujours rester en sécurité avec un adulte, bien entendu.
Cet atelier à petits pas vers la cohabitation, c'est comme ça que ça s'appelle. Oui. Quels sont les enjeux, les objectifs que vous visez ?
Alors, nos enjeux, il y a des enjeux. Ça paraît pas tout de suite, mais il y a des enjeux quand même féministes, il y a des enjeux d'éducation, il y a des enjeux sociaux, parce qu'on parle bien sûr des personnes marginalisées et des personnes, et toute autre personne, bien entendu. Mais notre but également de toujours sensibiliser le jeune public. Et honnêtement, c'est des éponges à cet âge-là. Donc, il faut commencer avec eux autres. Et puis après, eux autres peuvent justement impacter un peu plus leurs parents. Donc, avec justement des prises de position, avec des actions juste modestes à hauteur de leur âge, on va tâcher de favoriser l'inclusion. Et l'inclusion va se faire par des attitudes qui misent sur la bienveillance, sur l'empathie, sur le respect d'autrui. Ce sont des valeurs très de base que je vous raconte, mais c'est celle qu'on oublie actuellement. Donc, on veut faire faire ce rappel et l'enfant lui-même, par la suite, pourra à son tour influencer son parent.
D'accord. Donc, en fait, vous influencez l'enfant pour impacter le parent.
Ben oui, tout simplement, parce que le parent aura moins de difficultés, se sentira plus à l'aise d'en discuter puisqu'on aura déjà amorcé la discussion. Donc, peut-être aussi, on facilite le canal de communication et puis on va provoquer une certaine ouverture également. Voilà.
Ce sont quand même des enjeux complexes, sociétaux que vous abordez. Comment vous faites pour parler de cohabitation à ces très jeunes enfants ?
Alors, comme je le disais, l'histoire, c'est une façon déjà d'aller chercher l'imaginaire de l'enfant, puis sa pensée magique, mais aussi le ramener à notre réalité, parce que c'est une histoire qui est clairement empruntée à la réalité, même si elle est complètement fictive. Et ce qui est intéressant là-dedans, c'est que l'enfant se rend compte qu'une personne inconnue, personne qu'elle ne connaît pas bien, mais n'est pas forcément une personne qui pourrait la mettre en danger et qui pourrait lui faire du mal. Bien au contraire, il faut apprendre à la connaître, mais il faut savoir comment la connaître justement et ne pas le faire seul. Il faut toujours le faire en présence d'adultes. Donc, on le fait en rappelant que la bienveillance, la courtoisie, le respect, tout simplement dire bonjour, ce sont des gestes de base que l'on oublie actuellement tellement que nous sommes dans notre rush quotidien, de revenir à l'essentiel, à la base, afin que les enfants se disent « Ah, il y a juste ça à faire ». mais je vais le faire en étant en sécurité. Donc, il y a cette partie-là. Il y a une partie aussi où j'évoque les émotions avec les enfants, parce que ça provoque des émotions de connaître quelqu'un de différent de nous, qui ne ressemble pas à nos référents, on dirait, communs, c'est-à-dire les parents, nos professeurs, nos éducateurs. Donc, ils se sont dit, ah, tiens, une autre personne adulte, mais elle n'est pas méchante. Il faut juste que j'apprenne à la connaître de la bonne façon. Donc, les enfants vont exprimer leurs émotions là-dedans. Puis après, je leur fais justement aller vers quelque chose de plus et dire, OK, maintenant que tu as nommé tes émotions, qu'est-ce que tu peux faire? Est-ce que ce serait juste lui faire un OK, un clin d'œil, lui faire un check avec la main, lui faire un high five? Ça suffit largement, mais en étant toujours accompagné de ton parent. Après, si tu veux plus engager une conversation, il est vrai que tu peux toujours continuer cette discussion avec ton parent et cette personne, si elle le désire, les deux parties, bien entendu.
Très bien.
Donc, on va avec des choses vraiment simples.
Oui. Donc c'est vraiment de la cohabitation en fait, entre les enfants et toutes les personnes de la société. Quels sont les retours des principaux acteurs de ces enfants-là?
Alors, les retours, pour l'instant, sont positifs. Je dirais qu'on n'a amorcé que depuis l'année dernière, cet atelier. Donc, je dirais que pour l'instant, j'ai entamé avec mes collègues l'animation de cet atelier en CPE et en garderie. On souhaiterait bien sûr que ça aille aussi au niveau maternel et peut-être progressivement à d'autres niveaux, mais on attend pour le moment. Et les retours sont positifs parce que les éducateurs et éducatrices sont très contents de se dire « Ouf, quelqu'un aborde le sujet épineux. On ne veut pas aller là-dedans. On ne sait pas comment en parler. On ne sait pas comment faire. » Et le fait que nous arrivons avec une proposition d'outils, ça leur permet de se rassurer en tant qu'adulte en se disant « Ok, c'est possible d'en parler à des 4-5 ans. » Oui. Et les 4-5 ans peuvent vous démontrer une très grande empathie en disant « Ben oui, la personne, elle est assise sur un banc. Je peux la saluer, tout simplement. » Donc, les enfants nous nomment aussi leur inquiétude. « Ah, des fois, la personne, elle est un peu bizarre. Elle crie fort. Elle part fort. Maman préfère que je me tasse à côté. » C'est correct, mais il ne faut pas oublier non plus que la personne existe et que la saluer, c'est suffisant. Des fois, c'est tout ce qu'elle demande, et te saluer puis être reconnue, tout simplement, comme n'importe quel être humain. Donc voilà.
Merci beaucoup, Nathalie, d'être venue nous expliquer cette mission. Pour tous ceux qui seraient intéressés par ce que vous faites, est-ce qu'il y a un petit site internet que vous pourriez nous citer?
Absolument. Nous sommes rejoignables au www.lalonyme.ca. Nous avons un site internet. Nous sommes également présents sur les réseaux sociaux, autant sur Instagram que sur Facebook. Donc voilà, il nous fera un plaisir de vous rencontrer si vous avez besoin de nos activités. Vous êtes les bienvenus à nous contacter.
Et de nous faire cohabiter tous ensemble.
Tout à fait, c'est ça.
Merci beaucoup Nathalie et puis bonne continuation avec vos ateliers.
Merci Charline, bonne journée, au revoir.
On continue sur CIBL avec la clôture de l'émission et le programme de demain. Et l'émission d'aujourd'hui touche déjà à sa fin. Je remercie nos invités et nos chroniqueuses du jour d'être passées à l'émission, ainsi que Michaël Asselin pour la mise en onde et les choix musicaux. Demain à 8h, c'est la rediffusion des meilleures entrevues de la semaine. Alors restez branchés sur CIBL pour suivre ce beau programme. Et puis n'oubliez pas que l'émission est également disponible en balado sur les plateformes et sur notre site web. C'était Charline Carreau sur CIBL. Je vous remercie pour votre écoute et je vous dis à demain, à lundi, pour une prochaine émission en direct.
Depuis plus de 30 ans, le journal mensuel Écho Montréal est le fier porte-parole de l'actualité politique, économique, sociale et culturelle au cœur de Montréal. Distribué gratuitement et rejoignant 200 000 lecteurs, Écho Montréal est aussi un véhicule publicitaire polyvalent en répondant efficacement aux besoins de différents annonceurs, comme dans l'immobilier ou tout simplement pour y afficher avis public ou services professionnels.
À lire ce mois-ci dans Écho Montréal. Entrevue exclusive avec Paul Saint-Pierre Plamondon, les gagnants du concours Le français, une langue qu'on aime, un système de corruption syndicale et en édito, une volte-face politicienne.
Pour en savoir plus, nous vous invitons à visiter notre plateforme numérique à ecomontréal.com ou à composer le 514-844-2133, 514-844-2133.
Django et compagnie, c'est une série d'entretiens avec des musiciens et des musiciennes de jazz manouche qui anime une communauté qui est en plein essor à Montréal. Interview et musique en direct, Django et compagnie, c'est mercredi à 20h.
Le balado Les solutions climatiques de la COP Carbone a pour objectif de lutter contre les changements climatiques, une conversation à la fois. On s'engage à réfléchir, à sensibiliser et à agir ensemble, une fois par mois, jeudi 11h. Depuis 2011, la COP Carbone mène son action à partir de quatre piliers, l'empreinte carbone, la biométhanisation, le bâtiment et la mobilité durable. Ce balado sera animé par Géraldine Cadier-Mirales, Maya Saloum et Olivia Vu, toutes trois conseillères à la COP Carbone. C'est un rendez-vous jeudi 11h.
Excusez-la est une émission dédiée à la musique, la chanson, la danse traditionnelle québécoise. Mon nom est Marc Bauduc et chaque semaine, je vous convie à un rendez-vous dédié à la musique traditionnelle en toutes ses formes, que ce soit les nouveautés, les prestations en direct ou divers thèmes explorés au cours de l'émission. Les dimanches de 18h à 19h et en reprise les mercredis de 13h à 14h. Soyez au rendez-vous.
Vivre Montréal.
Dans la radio communautaire, c'est parce que les gens se sentent impliqués là, comme une espèce de longueur d'onde.
CIBL, au cœur de la vie citoyenne.
Salut à tous et à toutes, bienvenue à Point de vue, Boris Chassaigne avec vous pour la prochaine demi-heure.